Bien, je vous remercie tous d'être là. Je suis maintenant en mesure de vous indiquer les prochains séminaires à la suite des chaos et confusions dont je porte la totale responsabilité. Donc, nous aurons la semaine prochaine Madame Hélène Salon. Le 12, nous aurons Basma Khodmani, Basma Khodmani tout court. Et le 19, Madame Agnès Favier. Donc, le prochain, c'est sur l'Irak contemporain et les deux suivants sur la Syrie. Donc, là, on quitte un peu les aspects patrimoniaux qu'on a vus dans les premiers séminaires, dans le séminaire d'aujourd'hui. Donc, j'ai le grand plaisir, doublé de l'honneur, de vous présenter Madame Mercedes Volet, qui, depuis, je ne dis pas le nombre d'années dans lesquelles nous sommes rencontrés, depuis un certain temps, travaille sur le patrimoine égyptien. Elle a une formation d'architecte et parfaite arabisante par ailleurs. Elle a été envoyée en Égypte pour étudier l'urbanisme égyptien et puis elle est passée progressivement à ce qu'on peut appeler l'histoire de l'art, avec en particulier la dimension architecturale. Et la conférence de ce matin d'environ une heure, comme selon la règle, portera sur la notion de patrimoine dans l'Égypte contemporaine au sens des historiens, puisque elle l'a fait partir de 1835. Mercedes, je te cède la parole.
Eh bien, merci beaucoup, Henri. Merci de me donner cette occasion de parler devant un auditoire que tu m'avais qualifié d'intime. Bon, voilà. Le problème que je voudrais poser aujourd'hui est celui, effectivement, de la construction politique et sociale du patrimoine monumental en Égypte, que je voudrais aborder à travers deux temps qui ont déterminé ce qui a valeur d'héritage culturel dans le pays. Et je voudrais en même temps, donc, à la fois vous raconter cette histoire-là et en même temps m'interroger sur les représentations historiques et politiques aussi qui sous-tendent à la fois l'opinion et l'action publique à cet égard. Peut-être d'entrée de jeu préciser quelques partis pris. Comme ça, voilà, ça sera dit. Comme l'a indiqué Henri, je voudrais inscrire le sujet dans une certaine longue durée, tout en me centrant sur un segment particulier du spectre patrimonial égyptien, à savoir donc d'abord le legs architectural de l'Égypte médiévale, et puis ensuite de ce qu'effectivement les historiens appellent la période contemporaine, qu'en Égypte, souvent par anglicisme, on appelle la période moderne, Modern Egypt. Voilà, et au risque de décevoir les amateurs d'Égypte ancienne, parce qu'il sera pas du tout question, ou à peine question, de temple dans mon histoire. Ce que je voudrais dire en premier, ce que je voudrais dire aussi, établir d'entrée de jeu, c'est que je veux tenir un propos qui est à la fois à égale distance, je dirais, du prescriptif, hein, donc la question qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le patrimoine, ce n'est pas mon objet, et à égale distance aussi de ce que j'appellerais volontiers le tout critique, en référence à la théorie critique postcoloniale, qui consiste à dénoncer la mainmise européenne, pratique comme symbolique, sur les biens culturels égyptiens. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y ait pas eu de mainmise européenne, pratique comme symbolique, sur les biens culturels égyptiens, mais moi je m'intéresse à une autre histoire qui est une histoire plus attentive aux imbrications entre le local et le global, parce que je crois qu'en fait il y a les deux et que c'est cette interrelation qu'il m'importe en tout cas à moi de saisir et de mettre sur la table, on pourra en discuter. Et donc de tenter, c'est une approche compréhensive au sens des historiens qui vise à tenter de saisir ce qui se joue dans les politiques et peut-être au fond plus les pratiques. Je me suis dit après coup que j'aurais mieux fait de dire pratiques du patrimoine et représentations du passé en Égypte plutôt que politique. Enfin, en tout cas, il sera aussi question donc des deux, politiques et patrimoine. Est-ce qu'elles peuvent révéler d'un état de société, d'un moment historique donné? Les bornes chronologiques que j'ai choisies pour mon propos ne sont pas événementielles au sens politique. Ce sont des dates, disons, légales. 1835, on va le voir tout de suite, c'est la première ordonnance qui concerne le patrimoine en Égypte. Et 2006, c'est la mise en place d'un nouveau cadre législatif qui inaugure donc un nouveau cycle, un nouveau régime patrimonial en Égypte. Voilà, donc les deux temps, vous l'aurez compris, il va être d'abord question de l'invention du monument arabe, comme on l'appelait à l'époque, symbolisé ici par la grande mosquée Sultan Hassan, construite à la fin du XIVe siècle, et puis en bas, symbolisant l'Égypte contemporaine, la villa du baron Empin, construite sur les hauteurs d'Héliopolis en 1908. Alors, au commencement, si l'on peut dire, et la fascination qu'exerce de longue date une civilisation ésotérique, littéralement indéchiffrable, puisqu'on n'y comprend rien, jusqu'à ce que le fameux Champollion n'en découvre le code, événement dont on va fêter prochainement le bicentenaire, donc en 2022, et je pense que voilà, on va entendre parler de Champollion, en veux-tu et voilà, pendant quelques temps. C'est à ce même Champollion, et ça c'est intéressant d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à l'Égypte contemporaine, les lettres que Champollion envoie à son frère ou à sa famille sont des textes extraordinaires, très très fins, et en particulier une sorte d'anthropologie de l'Égypte contemporaine de l'époque. Voilà, ça c'est un petit aparté. En tout cas, c'est à ce Champollion que l'on doit quelques années plus tard un rapport sur les menaces pesant sur les édifices remarquables et les admirables monuments d'art et d'antiquité de la Haute Égypte, et c'est ce rapport qui donne naissance donc à 1835 à une ordonnance portant protection des monuments de la Haute Égypte, avec un argumentaire qui ne laisse pas d'étonner, peut-être vu d'aujourd'hui, puisque le texte fait expressément référence à l'importance que les Européens attachent aux monuments anciens et des avantages qui résultent pour leurs savants de l'étude de l'Antiquité. On est donc loin d'une rhétorique patrimoniale à vocation de roman national, comme l'exemple français allait progressivement l'imposer au monde entier. C'est le monde du savoir et de la connaissance qui prime ici. Les monuments sont importants parce que ce sont des documents pour l'histoire. La suite est bien connue, vous la connaissez sans doute tous, la création d'un service des antiquités en 1858, sous l'égide d'une autre personnalité phénoménale de ce temps-là, qui est Auguste Mariette, personnage assez bizarre et particulier, mais en tout cas extraordinairement dynamique. Et puis la rapide montée en puissance d'une organisation des fouilles en Égypte, avec partage du produit des fouilles, dont vous aurez peut-être aussi entendu parler, puisque s'il y en a certains d'entre vous qui suivent les cours de Bénédicte Savoie ici même, elle a écrit quelque chose de tout à fait intéressant sur Néfertiti, et justement comment Néfertiti est en fait une affaire franco-allemande avant d'être une affaire européo-égyptienne. Donc partage du produit des fouilles, exposition des plus remarquables objets dans un musée et entreposage du reste dans des magasins de sites. Donc voilà, il y a quelque chose qui se met en place assez vite et qui fonctionne parfaitement, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas qui a une dynamique propre et très importante. En parallèle, et c'est mon paragraphe intermédiaire sur la diapositive, il y a la familiarité croissante que l'Europe savante acquiert avec le terrain égyptien via, évidemment, cette nouvelle discipline de l'égyptologie qu'on a pu qualifier de science française. Mais il y a aussi cette familiarité, elle se gagne aussi parce que la France, disons, par la mise en place d'un système administratif égyptien calqué sur l'organisation institutionnelle française, qu'il s'agisse de l'armée, de l'instruction publique ou des travaux publics, il y a toute une flopée de techniciens français qui arrivent en Égypte pour s'occuper de médecine, pour s'occuper d'ouvrages d'art, etc. C'est ainsi, par exemple, que l'architecte marseillais Pascal Coste se retrouve en Égypte pour surveiller la construction donc, d'ouvrages civils dans le domaine de l'hydraulique, séjour qu'il met à profit pour demander un firmand pour dessiner dans les mosquées et monuments du Caire, firmand qu'il obtient, et firmand donc qui donne lieu à une production de dessins assez remarquable, plusieurs milliers, et qui débouche donc sur un grand recueil qu'il publie 30 années plus tard sur architecture arabe et monuments du Caire. La décennie des années 40 voit passer d'innombrables artistes antiquaires au Caire, donc antiquaires au sens non pas de vendeurs d'antiquités, mais au sens ancien d'amateurs d'antiquités, même si parfois les deux fonctions se confondent un peu. En tout cas, des artistes antiquaires, beaucoup, beaucoup durant la décennie 40, il y aurait d'ailleurs là tout un travail à faire, la décennie 40 pour les artistes, enfin la décennie 40 des artistes européens en Égypte, et une décennie très productive pour ce que j'ai appelé la mise en image du patrimoine monumental islamique, avec des noms très connus comme le daguerréotypiste par exemple Giraud de Prangey, à qui une exposition va être consacrée dans quelques mois, et il ramène de mémoire plus de 800 plaques donc de daguerréotypes d'Égypte. Vous connaissez le principe du daguerréotype probablement, c'est une plaque d'argent, avec une couche qui enregistre l'image, mais enfin ce sont des objets extraordinairement lourds, donc il faut imaginer qu'il se balade en Égypte, il y reste 2 ans avec toute une impedimenta qu'il faut amener sur les sites. Et donc Giraud de Prangey s'intéresse beaucoup aux monuments du Caire et à l'ornement islamique, et quelque chose qu'on n'appelle pas islamique, qu'on appelle arabe à l'époque, et qui intéresse donc beaucoup beaucoup d'amateurs. Un autre amateur beaucoup moins connu, c'est Adalbert de Beaumont. En tout cas, j'imagine qu'il est peut-être moins connu. Adalbert de Beaumont, toujours cette même décennie des années 40, ramène énormément de dessins aussi du Caire. Il va les utiliser après pour toute une production de céramique néo-islamique. Et c'est aussi le moment où on se lance dans des théories tout à fait fantaisistes et parfois tout à fait fumeuses, comme celle-ci, où en fait, Adalbert de Beaumont compare l'ornement islamique à la structure des micro-organismes marins. Bon, évidemment, personne ne croit à ça aujourd'hui, mais c'est intéressant de la façon dont on essaye de naturaliser quelque chose auquel on ne comprend pas grand-chose dans les sciences naturelles. D'autres amateurs encore, certains avec une familiarité très longue avec l'Égypte, et toujours le produit de cette histoire de la haute fonction publique égyptienne occupée par des Européens. Donc Émile Prisdaven a été fonctionnaire du Pacha pendant un certain nombre d'années avant de se lancer dans ses propres recherches, en fait. Et il rentre en France en 1842, et puis il finit par obtenir une mission en 1858 qui lui permet pendant 2 ans donc de recueillir beaucoup d'éléments sur place pour travailler à terminer ce qu'il va appeler une histoire monumentale de l'Égypte, de volets, l'atlas de l'art égyptien et l'atlas de l'art arabe, et pour lequel il estampe notamment des décors, donc grandeur nature, relevé grandeur nature. Il y a plusieurs centaines d'estampages qui sont toujours conservés à la Bibliothèque nationale de France, et d'ailleurs qui ont été tous numérisés il y a quelques années, quand on avait eu l'occasion de faire une exposition sur Prisdaven. Donc tout ça, c'est une matière évidemment assez extraordinaire, souvent sur des éléments du patrimoine qui ont d'ailleurs disparu, et donc il ne reste plus que cette trace-là. Tous ces relevés, évidemment, donc permettent de construire une histoire de donc l'architecture en Égypte et de son développement. autre au même moment, et donc ça c'est quand même intéressant. Donc là on est plus dans les années 40, on est dans les années 1860. Un autre personnage qui vient d'un tout autre milieu et avec une toute autre de toute autre préoccupation, mais qui travaille lui aussi à se relever de l'ornement. En particulier dans les monuments du Caire. Donc on a vraiment là un corpus qui se met en place, et je ne parle là que des Français, évidemment il faudrait parler des Allemands, il faudrait parler des Austro-Hongrois qui ont aussi fait un travail assez remarquable et accumulé donc toute cette matière sur les monuments du Caire. Donc une appropriation visuelle croissante des monuments du Caire. Et sur place, des personnalités très investies dans la nécessité de les préserver. Et là, je vous ai mis un couple improbable, Noubar Pacha d'un côté, Auguste Salzmann de l'autre. Et c'est pour une raison bien précise, c'est que le premier, Noubar Pacha, commande un rapport au second, Auguste Salzmann. Alors, Auguste Salzmann, certains d'entre vous le connaissent peut-être comme le photographe qui a fait des photographies de Jérusalem. Il a travaillé aussi à la restauration du Saint-Sépulcre. Et dans les années 1870, donc, Noubar lui commande un rapport sur la préservation des monuments arabes et l'organisation d'un musée. Noubar, pour le peu qu'on sache de lui sur cet aspect-là, est quelqu'un qui est manifestement très investi dans cette idée de conserver les traces d'un passé en train de disparaître. Et un architecte français, Hector Auro, qui à ce moment-là se trouve en Égypte pour proposer un projet d'osmanisation du Caire, dit de Noubar, et c'est un témoignage que je trouve tout à fait intéressant, « Quoi, m'a-t-on dit, vous voulez osmaniser le Caire? Vos grandes voies de communication vont faire abattre les monuments qui font la richesse artistique de la ville. L'air circulera dans vos rues, mais le soleil y viendra. N'est-ce pas du vandalisme que de vouloir faire une ville européenne de la ville orientale par excellence ?» De tous les adversaires les plus considérables, celui dont l'opposition m'a le plus étonné, et je peux bien le nommer, c'est Noubar Pacha. Pour lui, je suis un vandale, et il me l'a dit, il aime son vieux Caire jusque dans ses ruines. Je crois, moi, que l'architecture du quartier, le nouveau quartier du Caire, l'a exaspéré, et il y a bien de quoi. Pourtant, je ne veux rien faire de plus dans les rues du Caire que ce que Noubar veut faire dans ses lois, mettre de l'ordre et de la logique pour attirer les étrangers. Voilà. Donc, je trouve que ce témoignage, effectivement, est très intéressant, parce qu'on parle, souvent, quand on s'intéresse à ces questions-là, on parle de Salzmann et on oublie que c'est une initiative qui vient de Noubar. Alors, quelle est la part de Noubar lui-même, ou Noubar, haut fonctionnaire du Pacha, ça, c'est une autre histoire, mais on sait par d'autres biais qu'il avait, effectivement, cette sensibilité patrimoniale. Donc Noubar, et puis évidemment il y a aussi la personnalité en fait d'Auguste Mariette qui soutient le projet. On a des lettres où Auguste Mariette dit qu'il va essayer d'aider donc Auguste Salzmann à mener à bien sa mission et d'essayer donc de produire ce rapport. Salzmann produit effectivement ce rapport, commence à imaginer des priorités pour la restauration du patrimoine égyptien, et notamment la restauration de la grande mosquée de Sultan Hassan, mais il décède en 1872, et du coup ça met un terme à ce projet. Le projet est repris par un autre fonctionnaire du gouvernement égyptien. Cette fois, c'est un ancien diplomate britannique, Rogers Bay, qui en fait a quitté la diplomatie britannique pour rentrer au service du gouvernement égyptien. Il s'occupe de mémoire d'instruction publique et il rejoint donc le cercle des défendeurs des monuments du Caire qui s'est regroupé autour d'Auguste Mariette. On voit sur l'image quelques-uns de ces figures. Donc, en bas, vous avez Ambroise Baudry, le Saler, le Raïs, donc le chef des fouilles d'Auguste Mariette, Jorge Defendi, qui travaille au musée des antiquités égyptiennes, qui est l'assistant d'Auguste Mariette, et puis accroupi, le Jules Bourgoin. Et puis en haut, vous avez une image assez drôle, une caricature assez drôle d'Arthur Ronet en train de recopier des papiers Mariette, parce qu'à ce moment-là, dans les années 1879-1880, Auguste Mariette commence à avoir un très mauvais état de santé. Il décède pas très loin après, et donc Arthur Ronet est envoyé pour copier les documents de Mariette pour en conserver la trace. Et puis donc vous avez le grand Auguste Mariette avec Ambroise Baudry et d'autres égyptologues sur le terrain. Donc c'est dans ce milieu, donc c'est quand même lié, j'avais intitulé cette partie l'invention du monument arabe dans l'ombre de Pharaon. C'est quand même dans l'ombre de l'égyptologie et dans l'ombre de cette présence égyptologique que naît la conscience qu'il faut aussi préserver les monuments du Caire, et c'est ce à quoi s'attelle ce groupe européo-égyptien, puisqu'il y a aussi un ingénieur égyptien dans cette affaire-là qui s'appelle Hussein Pasha Fahmi Al-Ma'mar, donc l'architecte. D'autres personnages intéressants, Julius Franz, qui est un Allemand qui à ce moment-là dirige l'administration technique, enfin le bureau technique du ministère des biens religieux. Arthur Ali Ronet, alors ça encore, il ne s'appelle pas Ali parce qu'il est converti à l'islam, pas du tout. Il a été baptisé Arthur Ali. Ça existait à l'époque, ce genre de choses, parce que ses parents étaient son père était de sensibilité saint-simonienne, et donc pour marquer cet intérêt pour les saint-simoniens, il avait voulu baptiser à l'église son fils Arthur Ali. Je serais curieuse de savoir ce que ça pourrait être aujourd'hui. En tout cas, tout ce... Ah, intéressant, bon... Alors, autant pour moi. En tout cas, tout ce groupe donc, de gens qui sont au Caire depuis longtemps, qui vivent, qui y vont, qui viennent, ce groupe se mobilise la presse britannique aussi, la presse allemande, et Arthur Ronet s'occupe plus particulièrement de la France avec Gabriel Charme, et fait ce texte magnifique que je vous recommande, il est en ligne sur Gallica, ça a paru en feuilleton dans la Gazette des Beaux-Arts, ça s'appelle Coup d'œil sur l'état du Caire ancien et moderne, et qui est une promenade dans le Caire où, sous la réalité du Caire aujourd'hui, Arthur Ronet fait revivre le passé, en fait. Et c'est vraiment un texte assez magnifique. La Society for the Protection of Ancient Buildings s'y met aussi, et donc tout ça amène en 1881 à la création de quelque chose qui s'appelle le Comité de conservation des monuments de l'art arabe, qui pendant les 70 années suivantes va s'occuper donc de restauration des monuments du Caire. La conscience qu'il faut protéger les monuments du Caire naît dans l'ombre de l'égyptologie, mais elle emprunte rapidement une voie propre pour plusieurs raisons. Il y a d'abord la nature même de ce patrimoine. Il est fortement urbain, il est de type vivant, ce ne sont pas des ruines, ce ne sont pas des vestiges archéologiques. On y vit, et il est pour une large part constitué de biens de main morte, je l'ai déjà dit, donc de biens wakfés, mais qui sont très souvent en déshérence. Ainsi, si l'ordonnance portant protection des monuments de la Haute-Égypte fait expressément référence à la centralité de la science dans cette affaire, les facteurs qui déclenchent la protection du patrimoine médiéval ou islamique sont de trois ordres différents. Il y a d'abord l'état de ruine dans lequel se trouvent alors la plupart des monuments du Caire. Le Caire est une des villes qui a été le plus photographiée au XIXe siècle et on voit aisément sur les photographies qu'il s'agit d'une ville qui part en lambeaux. Je sais que souvent j'étonne en montrant ces photos parce qu'on n'imagine pas ça à connaître la ville aujourd'hui, mais c'est vraiment une ville qui part en lambeaux pour toutes sortes de raisons. Il y a eu d'abord les dévastations de la fin du XVIIIe siècle, les guerres intestines entre Maisonnée et Mamelouk. Il y a évidemment l'occupation française du Caire qui est un désastre pour les monuments, et la mosquée Al-Hakem, dont on voit un bout là, a servi de quartier général et a été absolument, enfin voilà, vandalisée. Il y a des tremblements de terre récurrents, là encore, on n'en a pas conscience. Il y en a eu un en 1992 qui n'a pas fait beaucoup de bien au monument, mais au XIXe siècle, c'est violent, ça secoue et ça tombe beaucoup. Il y a la déshérence des biens Wakf, dont je viens de parler, par disparition de la lignée de leurs administrateurs. Donc voilà, tout d'un coup, plus personne n'est en charge des monuments. Et puis, il y a caractère aggravant, leur transformation forcée dans le cadre de l'effort de guerre mené sous Mohamed Ali, où les mosquées sont déconsacrées pour être transformées en magasins de poudre ou en écuries. Il y a une dizaine de cas au Caire, ou encore en hospice, comme ici, donc sur l'image, la mosquée Ibn Touloun, dont on voit que l'entrecolonnement des arches a été donc fermé, et il y a toutes des petites fenêtres pour les cellules, donc c'est une mosquée qui a été transformée en hospice pour les indigents de mémoire au début des années 40. Donc, première chose, l'état de ruine. L'autre, c'est la modernisation, évidemment, et en particulier une grande percée que vous apercevez peut-être sur l'image, qui va du centre du Caire, l'Esbekeïa, jusqu'à la citadelle. C'est une grande artère qui est percée à partir de 1870 et qui emmène sur son passage la destruction de plus de 400 bâtiments, dont des mosquées, dont des madrasas, donc vraiment quelque chose de très important. Et puis il y a, donc ça c'est une image de la percée qui est calée sur la mosquée de Sultan Hassan, dont le point de mire en fond de perspective est donc la mosquée de Sultan Hassan. Et vous voyez quelques images des démolitions alors en cours, parce qu'en plus il y a une question de dénivelé entre les. Ils avaient commencé à percer d'un côté, à percer de l'autre, et puis il y a eu un problème de dénivelé et ça a demandé encore plus de déblaiement. La modernisation évidemment de la ville, l'osmanisation de la ville, et puis troisième élément qui est quelque chose qui existe aussi dans le cas français, qu'on a appelé le vandalisme restaurateur, c'est-à-dire c'est le comte de Montalembert à qui qui écrit cette formule en 1839. À la fois, il y a plus que destruction, il y a restauration. C'est-à-dire que c'est la restauration, finalement, qui vandalise les monuments, peut-être plus que le fait qu'on les laisse aller à leur vie. C'est l'un des arguments pour lequel on mettra en place un comité de conservation des monuments de l'art arabe pour que justement les restaurations ne soient pas une simple maintenance ou un simple entretien des bâtiments ou un simple embellissement, entre guillemets, donc ça c'est quelque chose que tous les kérotes d'aujourd'hui connaissent bien, quand on veut faire joli, on peint, on badigeonne, ça dure ce que ça dure, encore qu'aujourd'hui, quand on se promène dans la vieille ville du Caire, on voit encore des mosquées qui sont badigeonnées rouges et jaunes, ce qui est assez, enfin il reste des bouts finalement, ça, le badigeon à la peau dure, mais en tout cas, donc c'est ce besoin d'avoir un contrôle expert des restaurations qui déclenche donc la nécessité de les restaurer. Je ne sais pas si on a le temps on a le temps qu'il faut. Voilà, il y a un exposé des motifs qui est joint, qui se trouve aux archives nationales du Caire, hein, et qui précède donc qui est préparé juste un petit peu après par l'administration des WAQF, donc en novembre 1882, pour rappeler pourquoi c'est important donc de protéger les monuments du Caire. Et il y a plusieurs ordres de raisons. Alors d'abord, première chose, et ça c'est intéressant, le rapport rappelle que les travaux de restauration ont déjà été commencés au Caire ou à Alexandrie, mais qu'il s'agit de les inscrire dans une œuvre d'ensemble pour en améliorer la qualité, à l'instar de ce que fait la France et des missions confiées à sa commission des monuments historiques. Donc l'idée de la commission des monuments historiques en France a joué un rôle dans la mise en place de ce comité. C'est une institution de même genre qu'il était indispensable de fonder au Caire, dont la première fonction devait être de faire un inventaire général des monuments dignes de conservation et la seconde d'en surveiller étroitement la restauration. Donc voilà, ce contrôle de la restauration dans les règles de l'art. La restauration n'aurait pas seulement un intérêt d'art et d'archéologie, elle exercerait sans nul doute une influence heureuse sur l'avenir moral et matériel du pays, car il est bien clair que l'art européen n'aurait jamais en Égypte le même éclat qu'en Occident. Il serait facile au contraire d'y faire revivre l'art arabe, ou du moins un art nouveau qui s'inspirerait à la fois de l'art arabe et des conditions que la nature a imposées de tout temps aux architectes sur le sol égyptien. Donc là c'est intéressant, c'est un peu la même histoire que le gothique de Viollet-le-Duc, hein. C'est l'idée que les monuments, c'est pas seulement pour conserver le passé, mais c'est aussi pour orienter l'avenir, et que c'est donc ces monuments, cette connaissance des monuments qui doit inspirer un nouveau type d'architecture. Voilà. Donc, si on reprend un petit peu la chronologie, donc on a en 1881 la création du comité de conservation des monuments de l'art arabe, rapidement donc un inventaire, une liste de monuments, ensuite un système qui se met en place, qui est d'une certaine manière bicéphale, puisqu'on a d'un côté un service des antiquités qui s'occupe des antiquités égyptiennes, c'est-à-dire des monuments pharaoniques, et de l'autre côté, donc, ce comité de conservation des monuments de l'art arabe qui s'occupe des monuments historiques du Caire, puis au fur et à mesure des provinces, qui intègrent ensuite les monuments coptes, et puis qui avancent au fur et à mesure jusqu'en 1928 vers l'idée que le monument, ce n'est pas simplement l'édifice, c'est au fond la ville, donc la ville historique, et ce système bicéphale qui donc progresse de manière totalement indépendante en parallèle n'est réuni qu'à partir de ne commence à être réuni qu'à partir de 1951, quand il y a une nouvelle loi sur la protection des antiquités qui abroge toutes les lois intérieures. Et donc c'est cette loi qui réunifie le domaine patrimonial égyptien, donc depuis l'époque préhistorique jusqu'à la fin du règne d'Ismaïl en 1879, et pose donc le principe d'une fusion des différents organes administrant les diverses catégories d'antiquités qui étaient donc gérées différemment. Et en 1953, cette première ordonnance prend effet. Et il y a la dissolution du comité de conservation des monuments de l'art arabe et la création d'une administration unique des antiquités des différentes époques. Et on va comme ça jusqu'en 1983, qui ouvre donc un nouveau un nouveau cycle patrimonial en Égypte. Un petit mot aussi pour parler de la question de la muséification du patrimoine, hein, des effets de cette reconnaissance patrimoniale des monuments historiques du Caire, c'est de vider les mosquées de leur mobilier, en particulier, pas seulement les mosquées, les madrasses, en fait tous les sanctuaires, parce qu'on pense que pour les protéger, il vaut mieux les mettre au musée, en fait. Et donc, tous les mosquées deviennent des lieux déserts, des lieux où il n'y a plus, des lieux vides, où il n'y a plus de chandeliers, il n'y a plus de meubles à Coran, il n'y a plus de kursi, il n'y a plus... Tout ça est transporté au musée. Et, on a, par exemple, cette très belle image qui date de 1882, où on voit comment donc, tout est rassemblé, les chandeliers, les lampes... voilà, donc ça c'est aussi un effet qui est important, la question de la muséification du patrimoine. Le premier musée des antiquités islamiques du Caire est situé dans la mosquée Al-Hakem, et ensuite, avant qu'on lui construise un édifice propre, qui est toujours d'ailleurs le musée de l'art islamique du Caire, où sont, une réinstallation a été faite il y a quelques années. Donc, peut-être pour résumer ce premier aspect, je dirais que la mise en place d'un système de protection de l'architecture islamique en Égypte combine à la fois une pression intérieure avec des personnages tels que Nubar Pacha ou Hussein Pacha Fahmi El-Me'amar et une pression extérieure, celle exercée par les fonctionnaires européens du Pacha. Ce système moderne vient phagocyter un système de perpétuation du bâti qui était lui-même à bout de souffle et qui, de fait, disparaîtra puisque dans les années 1950, il y a l'abolition définitive du système des waqf. La logique visant à célébrer le Caire comme la capitale de l'art arabe par excellence, et on a toute une littérature là-dessus, tout à l'heure on a vu ville orientale par excellence aussi, entre en collusion pour une partie de la population avec la dimension fonctionnelle des lieux concernés. Elle participe de fait à reconfigurer la géographie religieuse du Caire, puisqu'au fond, le public tente à déserter les mosquées historiques au profit de sanctuaires plus modernes. Et pour autant qu'on puisse en juger, la conscience historique des lieux concernés est parfois très relative. J'ai eu une expérience assez amusante dans la mosquée Maliden, une très belle mosquée ancienne au Caire, qui, comme beaucoup de mosquées du Caire, à des pierres de remploi pharaonique, puisque, je veux dire, ces pierres avec des hiéroglyphes avaient une fonction de protection des lieux. Donc, beaucoup de mosquées du Caire ont des pierres pharaoniques, parfois avec des hiéroglyphes. Et donc, la personne qui me faisait visiter la mosquée me dit « Tu vois, là, il y a écrit le nom de la mosquée arabe en caractère hiéroglyphique. » J'ai dit « Oui, sans doute. » Et l'autre chose assez amusante, c'est quand il y a quelques années, je préparais un portrait de ville sur le Caire, et j'intervenais à la faculté d'architecture de l'université du Caire, et bon, voilà, et à la fin, les étudiants m'ont posé toutes sortes de questions. À la fois, je leur ai dit, moi, j'aimerais vous poser une question, je suis en train d'écrire un portrait architectural du Caire, donc, si vous deviez quel serait pour vous le plus bel immeuble, édifice qui a été construit au cours des 10 dernières années? Ça m'intéresse de savoir... Voilà, qu'est-ce que pour vous est le plus intéressant dans ce qui a été construit? Et ils m'ont répondu Sultan Hassan. Donc c'est intéressant de voir qu'au fond, je veux dire, voilà, nous on est sur des dates, etc. Et la représentation de nos interlocuteurs peut être parfois tout à fait.
Une mosquée mamelouk, hein.
Oui, la mosquée de Sultan Hassan, c'est effectivement une mosquée du XIVe siècle, mais ça veut dire aussi que dans la représentation, je veux dire, de mes interlocuteurs, le problème, ce n'était pas l'âge de la mosquée, c'était sa signification et l'importance qu'elle avait d'un point de vue esthétique. C'est ça que je trouvais tout à fait intéressant. Cette histoire du comité de conservation des monuments de l'art arabe, bon, il y a pas mal de travaux qui se font dessus aujourd'hui. lire. Il y avait des procès-verbaux réguliers qui sont d'ailleurs maintenant entièrement en ligne, et ça permet d'écouter toutes sortes de voix, parce que, je veux dire, les monuments concernent les voisins, il y a des pétitions, il y a des histoires de trésors qu'on pense enfouis, enfin, il y a toute une histoire sociale de ces monuments qui est tout à fait intéressante à suivre et qui n'est pas forcément la vision de ceux qui s'occupent de protection patrimoniale, et je trouve que c'est intéressant d'essayer d'écouter cette polyphonie des voix. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on en est du temps. Ça risque. Voilà, on verra. Donc, je voudrais passer aujourd'hui, maintenant, à un second temps, qui est ce qu'on pourrait appeler l'invention de la Belle Époque en Égypte, et qui concerne donc un autre élargissement, une autre expansion patrimoniale, du domaine patrimonial. Avec déjà cette invention textuelle ou linguistique qui, d'une certaine manière, a cristallisé ou a donné corps à une évidence patrimoniale. Il y a quelques années, j'ai pas fait l'exercice récemment, mais il y a quelques années, quand on tapait Belle Époque tout court, entre guillemets, avec des guillemets, sur Google, la cinquième ou la sixième occurrence amenait à l'Égypte. Donc voilà, comme c'est en page vue, ça veut dire qu'il y a un grand trafic sur la toile à cet égard. Je vous ai mis aussi la chronologie pour dire que d'abord, effectivement, c'est une loi qui ouvre la possibilité, en fait, d'intégrer de nouveaux segments patrimoniaux au patrimoine national, puisqu'à partir de 1983, c'est un monument qui avait plus de 100 ans d'âge qui pouvait être intégré au spectre patrimonial. Donc, ça veut dire qu'on avance dans le temps. Chaque année, on peut classer plus ou protéger plus. Et cette loi elle-même contient une dérogation pour intérêt national. On peut, pour intérêt national, classer des choses plus récentes. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait, comme on va le voir. 1989... Autre date importante qui donc voit émerger le terme même de Belle Époque dans la presse égyptienne d'expression anglaise en particulier. Autre date importante, 97, le moment où un séminaire est organisé sous l'égide de Madame Moubarak par le journal Al-Ahram pour lancer une campagne nationale de préservation de l'héritage architectural et industriel de l'Égypte moderne, donc El Tourath El Hadith. Et puis après, toute une série d'initiatives. Je ne sais pas si on arrivera jusque-là. Donc, ces deux dispositions principales de la loi de 1983, le fait que tout ce qui a plus de 100 ans d'âge est éligible au patrimoine égyptien, et le fait que l'article 2, qui précise que tout objet immobilier ou mobilier de valeur historique, scientifique, religieuse, artistique ou littéraire peut être considéré comme antiquité par décret du Premier ministre sur recommandation du ministère compétent pour les affaires culturelles, dès lors que l'État trouve un intérêt national à conserver et à préserver un tel objet. Cette loi, cette disposition a été utilisée entre 1983 et 2005, faudrait continuer le décompte, pour une soixantaine de bâtiments de la période contemporaine, donc années 1850-1950. On en voit ici quelques exemples. Ce sont souvent des bâtiments qui sont déjà des bâtiments publics. Voilà, ce sont, et peut-être je reviendrai sur cet aspect, la question des lieux du pouvoir et en particulier de tout ce qui est lié à la présidence de la République. Un monument comme celui-là, un petit peu différent encore, donc datant de 1868, mais qui n'est pas dans un grand bel état de conservation. Donc c'est quand même des monuments publics pour la plupart. Cette mosquée à Héliopolis, qui a été rebaptisée El Thaoura, mais qui était en fait la mosquée du sultan. Il y a aussi une appropriation symbolique dans ces gestes patrimoniaux. une ancienne villa art déco appartenant à une famille française et puis après devenue publique et puis après transformée en médiathèque publique Moubarak. Évidemment, ça ne s'appelle plus la médiathèque publique Moubarak, mais la bibliothèque de Gizeh. Des exemples à Alexandrie et y compris dans la région du canal de Suez avec donc cette villa Ferdinand de Lesseps qui a été classée en juillet 2003. Donc, il y a d'abord une disposition législative qui ouvre la possibilité de classer le patrimoine. Il y a, à partir de 1989, ce terme de belle époque, alors avec une narration que je dirais quasiment publicitaire et qui fera hurler n'importe quel historien, pardon, de l'Égypte khédiviale, parce que voilà, c'est pas tout à fait comme ça qu'on voit l'Égypte khédiviale, mais ça dit bien la représentation qui est en train de se mettre en place, l'hédonisme, le glamour, enfin voilà, star et paillettes, pour faire vite, et qui inspire donc toutes sortes de publications, l'idée que c'est lié à Paris aussi, enfin il y a tout un univers, il y a tout un imaginaire patrimonial qui se met en place autour en particulier du centre-ville du Caire, mais pas uniquement. Ce volet narratif, il est lié en fait d'une certaine manière, et je pense qu'Henri était encore en Égypte à ce moment-là, à toute une série de textes mémoriels, et en particulier les mémoires du journaliste Louis Awad. Donc il y a toute une génération qui arrivait vers la fin de sa vie et qui commençait à parler de ce qui s'était passé avant 1950 en fait, puisque beaucoup étaient nés évidemment avant 1950, avaient eu une jeunesse dans l'Égypte pré-nassérienne, et donc en approchant de la fin de leur vie, ils voulaient parler de ça. Et c'est pour l'historienne Afaf Lutfi et Sayed Marceau, c'est justement cette littérature mémorielle qui d'une certaine manière a déverrouillé la manière de raconter l'histoire égyptienne, puisque tout d'un coup on découvrait en gros qu'avant 1952 il s'était passé des choses, beaucoup de choses complexes, et qu'on pouvait en parler. L'historienne Magda Baraka, qui est une des premières à s'être intéressée à des sujets relevant de cette période Oni, en consacrant sa thèse à la haute société égyptienne de l'entre-deux-guerres, son livre commence par ces mots: mon intérêt pour la classe a jailli initialement d'un besoin ancien de connaître et de réévaluer la vérité à l'égard de l'histoire moderne de mon pays. Étant donné que le passage de l'enfance à l'adolescence intervint pour moi dans une conjoncture particulière qui ne pouvait manquer de générer un sérieux questionnement. Mon éducation primaire s'était faite sous la domination totale d'une influence, le régime nassérien, mais je commençais mes années de collège sous une nouvelle influence, l'Ersadat, qui semblait mettre en doute tout ce que j'avais appris précédemment. Les héros d'hier avaient vocation à devenir les réprouvés d'aujourd'hui, et les réprouvés d'hier étaient d'une certaine manière en voie de réhabilitation graduelle pour avoir fait exister une belle époque égyptienne, objet d'une nostalgie croissante aujourd'hui. Et donc, voilà, il y a tout un pan d'histoire qui a commencé à s'écrire à partir de ce moment-là. Il y a une présence sur Internet extraordinairement importante sur tous ces sujets. Je vous ai mis à l'écran l'exemple de trois sites. Donc l'Égypte d'antan, qui a connu un trafic absolument incroyable en quelques années de plus d'un million et demi de visiteurs. Le site egypte.com et aussi le site Masriyat min al-Zaman Fat, où on s'échange des photos. Il y a toute une iconographie de l'Égypte d'antan, donc de l'Égypte pré-nassérienne, qui est très importante. Évidemment, le symbole le plus éclatant au plan international de ce changement de paradigme, je dirais, des changements de logiciel, c'est Imaret Yacoubian, d'Alel Aswani, qui est aujourd'hui traduit en 26 langues, je crois, et qui a été porté à l'écran en 2006. Alors j'ai honte de vous avoir mis un passage en anglais, parce que je n'ai que la version anglaise à portée de main. C'était un âge différent, le Caire était comme l'Europe, il était propre et smart, élégant, et les gens étaient bien élevés, respectables, et chacun connaissait sa place. Quel temps! Chaque nuit était remplie de rires et de fêtes, et de boissons et de chants. Il y avait beaucoup d'étrangers au Caire. La plupart des gens qui vivaient au centre-ville du Caire étaient des étrangers jusqu'à ce que Abdel Nasser les jette dehors en 1956. Et une traduction architecturale amusante de cet imaginaire belle époque, ancien régime, c'est l'Automobile Club, qui est d'ailleurs un des lieux qui a fait, c'est le roman suivant de à la Soigne après Imaret Yacoubian, qui est un immeuble qui existe vraiment au Caire. Son second lieu, c'est l'Automobile Club, et cet Automobile Club, alors je ne sais pas si c'est ce qui a déclenché l'envie pour aller à Soigne de faire ce roman, mais en tout cas en 2004, l'Automobile Club a été belle époquisé, si je puis dire, puisque en fait sa façade d'origine, alors malheureusement j'ai plus qu'un tout petit ancien cliché, en 1937, on avait fait une façade néo-islamique pour ce club, et en 2004, les patrons du club ont décidé de mettre en place cette façade néo-renaissance. Donc il y a vraiment là quelque chose qui est en train de se passer. Un engagement médiatique aussi très fort, enfin une solution pour le palais du Baron, ça c'est 2005, la célébration du centenaire donc de la création d'Héliopolis, et effectivement une solution pour cette villa hindoue qui avait brièvement appartenu à la famille Ampin, qui avait été rachetée dans les années 50 par un propriétaire syrien et un propriétaire saoudien, donc qui était une propriété privée. En 2005, il y a un arrangement qui est fait, qui est sous l'égide donc de la présidence de la République égyptienne, pour que ces deux propriétaires récupèrent un terrain à l'extérieur du Caire et donnent la villa donc en échange aux autorités égyptiennes à des fins de restauration. Elle est 2005-2018, elle est toujours en restauration, elle n'a pas été encore totalement restaurée, mais c'est devenu un monument public national. Dans ce qu'on observe aussi quand on suit de près les affaires patrimoniales égyptiennes, c'est qu'évidemment il y a toutes sortes d'intérêts qui rentrent en jeu. L'image de cette villa, anciennement Villa de l'Or de Gléon, et ensuite le showroom d'antiquaire le plus connu du Caire, donc de Maurice Nahman. Cette maison a été classée en 1995 pour des raisons que j'appellerais de convenance personnelle, à savoir que c'est le commerçant qui avait ouvert une petite boutique à l'intérieur de l'immeuble, qui a bataillé pour faire classer ce bâtiment comme monument historique, parce que ça lui assurait des droits de propriété sur le bâtiment. Donc il y a aussi toutes sortes d'histoires qui se passent à cet égard. Autre histoire tout à fait particulière, ça c'est la première fois que je vois ça en Égypte, la démolition de l'unique tour d'Héliopolis, donc avant même qu'elle ait été terminée. C'est une histoire très longue et très compliquée. C'est un projet qui avait été lancé en 1987. C'est une propriété appartenant à chacun, enfin, c'est une propriété collective de gens qui ont payé d'avance sur plan pour la construction de la tour. Et puis, cette tour plonge sur les jardins de la République égyptienne, et un jour, Hosni Moubarak, dit la légende, s'avise qu'effectivement, un tireur d'élite a quand même une vue plongeante sur ces jardins, et donc on fait démolir la tour. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est pour l'instant, mais Donc, en 2004, elle avait déjà perdu une dizaine d'étages et je ne suis pas retournée depuis à Héliopolis, mais à ma connaissance, elle est encore descendue jusqu'à hauteur de l'immeuble voisin. Autre cas intéressant qui est toujours lié à alors, peut-être quelque chose, une culture politique dont Henri voudra peut-être dire quelque chose, c'est la manière dont le pouvoir de Hosni Moubarak s'est glissé d'une certaine manière dans une lignée khédiviale au moment de la restauration donc, du palais Abdin et de la construction d'un musée en son sein. Et à ce moment-là, donc c'est 98, hein, Hosni Moubarak fait restaurer non seulement le palais pour installer un musée, mais aussi le mausolée d'un saint. Il fait inscrire une inscription de fondation dans la tradition, je dirais, des inscriptions de fondation des grands monuments. Donc ce mausolée, ce makam, a été rénové, gadded, par El Reis Mohamed Hosni Moubarak donc en 1998. Et Moubarak écrit aussi la préface du livre en disant « Le palais Abdin est sans conteste un repère important dans l'histoire de l'Égypte qui ne devrait jamais être effacé, en particulier du fait que sa construction coïncide avec la construction du Caire moderne. » En 1872, après avoir fait ériger le palais, le khédive Ismaïl transporta le siège du souverain de la citadelle au palais Abdin, lequel par la suite vit se dérouler d'importants événements de l'histoire égyptienne jusqu'à la révolution de juillet 52. C'est pourquoi le pays tient à conserver ce palais dans son meilleur état possible, afin de maintenir le cadre d'événements politiques et historiques significatifs, de rendre digne son statut architectural et culturel, et de protéger et de présenter ses importantes collections. Toutes sortes d'initiatives connexes avec des entreprises de mémoire numérique de l'Égypte moderne menées par la bibliothèque Alessandrine et aussi par le centre Cultnat, des publications toujours pour de mise en valeur de ce patrimoine. Et puis en 2006, un nouveau cadre à la fois législatif et institutionnel, avec la création d'un organisme dont le nom fait parfois sourire en Égypte, National Organization for Urban Harmony, donc l'Organisation nationale pour l'harmonie urbaine. Bon, voilà, le Caire, ce n'est pas toujours complètement harmonieux d'un point de vue urbain, dirons-nous, mais un organisme qui fait pas mal de choses, quelquefois dans un tempo qui ne marche pas très bien, comme par exemple ici, quand ils ont lancé un concours pour la restauration des magasins Sednaoui, qui est un bâtiment construit par un architecte français en 1914 et qui devait être qualifié pour en faire un espace public, mais le concours a été jugé en octobre 2010, et vous imaginez qu'à partir de janvier 2011, les autorités publiques ont eu d'autres chats à fouetter, et donc ça ne s'est jamais fait. Mais en revanche, il y a d'autres choses qui se font dans les provinces, par exemple. Là, c'est l'ancien hôtel de ville de Damanhour, une œuvre d'un architecte italien qui l'a été transformé en centre de créativité. Autre initiative qui sans doute n'aurait pas pu être, enfin qui aurait été imaginable quelques décennies plus tôt, c'est la restauration du mausolée donc Kuba Efendina, le mausolée de la famille Khedivia, enfin en particulier la branche de la famille Khedivial Abbas Hilmi, qui avait été construit en 1892 et qui a été restauré en 2005 sur des fonds du ministère des biens religieux. Donc effectivement, il y a un changement de logiciel qui se fait à ce niveau-là. Il y a aussi une dimension de promotion foncière immobilière, tout simplement, hein, qui est comme partout, comme dans beaucoup de villes, vise à une gentrification. On fait au Caire du centre-ville ce qu'on fait à Marseille et ce qu'on fait à Barcelone. On rachète des immeubles, on les vide de leurs habitants et on les remet sur le marché avec des, comment dire, une rénovation, une réhabilitation pour les faire passer dans une autre tranche, je dirais, de la promotion foncière et immobilière. Donc ça se fait au centre-ville du Caire, ça se fait à Alexandrie, avec là un projet de, d'une certaine manière de plus longue durée, puisque la société en charge, Sigma Properties, en fait, a commencé à racheter des immeubles à partir de 1959, et maintenant, elle veut effectivement les remettre sur le marché, réattirer, dit-elle, les Alexandrins vers le centre-ville, parce que comme beaucoup de d'autres grandes villes, le Caire est devenu une ville extrêmement étendue où les gens peuvent habiter jusqu'à 30 ou 40 kilomètres hors de la ville, idem pour Alexandrie, et donc c'est aussi une idée de reconquête des centres-villes qui avaient été déclassés pour de multiples raisons, et donc une reconquête des centres-villes qui se joue aussi autour de cette question Belle Époque, ce qui ne veut pas dire, alors ça c'est la face, je dirais, voilà, c'est le côté rempli du verre ou le côté vide du verre. Évidemment, tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bâtiments qui souffrent. Celui-là, par exemple, qui est à l'écran, qui est une construction d'un des grands vizirs de l'Empire ottoman, Said Halim. Le palais a été protégé en 2002, mais je veux dire, ça ne serait pas étonnant qu'il tombe un jour faute d'entretien. Idem, par exemple, pour la grande synagogue d'Alexandrie, en dépit de travaux d'urgence, d'ailleurs votés par le ministère des Antiquités égyptiennes, mais ça ne l'a pas empêché de figurer donc, sur le World Monument Watch. Donc, c'est une liste publiée par le patrimoine mondial qui attire l'attention sur les monuments en danger. Donc, évidemment, quoi faire d'une synagogue en Égypte, bon, vous voyez les problèmes que ça peut susciter. Et puis aussi, à partir de 2011, au moment où la police s'est un peu retirée des rues du Caire, dirons-nous, toutes sortes de pillages qui ont été organisés, comme ici la villa de l'antiquaire Ispénian, qui a été dépouillée donc, de tous ses décors anciens, historiques. Et puis aussi, et peut-être je terminerai par cet exemple-là, c'est des choses qui se font le plus légalement du monde, comme donc cette villa à Guion, œuvre d'un des grands noms de l'architecture française, Auguste Perret, réalisée en 1926-27 pour un notable alexandrin, Gustave Aguillon, et qui a fini par périr sous les coups des bulldozers au terme d'une très longue bataille judiciaire qui a duré plus de 15 ans et qui a assuré le propriétaire de son bon droit à démolir son bien, fut-il inscrit sur des listes patrimoniales, parce qu'en fait le bâtiment avait été inscrit, mais Tarhis Hadam, il a bien obtenu un ordre de démolition. Peut-être un petit mot de conclusion pour dire que les affaires patrimoniales sont donc des affaires complexes qui mêlent dimensions politiques, culturelles, sociales et économiques. La façon dont le pouvoir comme la société civile s'en saisit, c'est toujours significative et intéressante à regarder. On voit le pouvoir en faire un usage instruit au profit de sa propre légitimité et inscription dans la durée. L'existence de groupes de pression d'un autre côté est souvent un élément clé pour l'expansion du domaine patrimonial. Donc il y a tout ce jeu en fait, d'acteurs qui est intéressant à suivre. La réception de la Belle Époque montre que la représentation du passé peut changer sur un temps au fond assez court, que ce n'est nullement une question intérieure, mais une affaire avant tout domestique. Le regard sur le passé est toujours un regard sur le présent, dicté par l'expression du présent. Je vous remercie.